Bonjour, bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi. Et ce matin, en collaboration avec le mensuel Ça m'intéresse, on s'intéresse justement à ces gyms douces qui soignent le corps et l'esprit. Et si en cette rentrée forcément stressante, vous vous mettiez au yoga, au pilates, au qigong ou encore au tai chi, nous verrons ce matin comment retrouver équilibre et harmonie grâce à ces pratiques, avec l'idée de s'assouplir, de se muscler, d'abaisser son niveau de stress, de combattre son anxiété ou encore d'accompagner une pathologie. Nous verrons que les gyms doux sont une alternative à tous ceux qui veulent bouger, rester en forme sans traumatiser leur corps. Et vous, pratiquez-vous le tai chi, le yoga, le qigong ou encore le pilates? Quel bienfait éprouvez-vous dans votre corps et dans votre tête? Question témoignage 01 45 24 7000, grand bien vous fasse à radiofrance.com et sur notre page Facebook. Bonjour Aline Perraudin.
Bonjour Aline.
Directrice de Santé Magazine, ravie de vous retrouver tous les lundis dans l'émission pour une nouvelle saison. Alors vous vous demanderez tout à l'heure s'il est préférable ou pas d'avoir un avis médical avant de pratiquer une gym douce.
Bah oui, parce que même si on parle de gym douce, elles ne sont pas forcément totalement sans risque. Bien sûr, elles ne sont pas dangereuses, mais il y a quand même peut-être des contre-indications.
Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Vous avez passé un bon week-end?
Ouais, pas mal.
Pas de vol de parachute en parachute ce week-end?
Non, pas ce week-end.
Parce qu'il paraît que vous y êtes mis cet été.
C'est vrai.
Alors tout à l'heure, de quoi parlera votre petite philosophie de la vie quotidienne?
Eh bien Ali, est-ce que vous êtes souple?
Oui, ça dépend pourquoi.
Modérément. Bien, et ben on va parler de souplesse, parce que qui dit gym dit souplesse, tout simplement. On va se demander ce que c'est que la souplesse et à quoi ça peut bien nous conduire.
À tout à l'heure.
France Inter, grand bien vous fasse, Ali Rébéi.
Et non, nous ne parlerons pas de gym tonique ce matin, mais de gym douce, ces pratiques qui peuvent soigner. Avec nous, trois invités. Bonjour, docteur Lionel Coudron.
Bonjour.
Diplômé en médecine du sport, traumatologie. Vous êtes également professeur de yoga et directeur de l'Institut de yoga-thérapie. Vous avez notamment publié la yoga-thérapie chez Odile Jacob. Bonjour, Dominique Cazaïs.
Bonjour.
Vous êtes kinésithérapeute spécialisé en massage chinois, directeur du Centre de culture chinoise Les Temps du Corps à Paris, et vous avez fondé le réseau France Qigong. C'est quoi le Qigong en quelques mots? On y reviendra évidemment largement tout à l'heure.
Le Qigong, on dit gymnastique de santé chinoise, ça vient de la médecine chinoise. Ce sont des mouvements lents, la respiration, la concentration de l'esprit, pour retrouver une unité entre le corps et l'esprit.
Bonjour Afsaneh Sabouhi.
Bonjour.
Journaliste à Ça m'intéresse, vous allez m'accompagner tout au long de cette émission. Lionel Coudron, les gyms douces, ça s'oppose à des gyms durs qui traumatiseraient le corps, si on veut être un peu schématique et caricatural?
Là, ce serait le cas, effectivement, on serait caricatural, et je pense que justement, il faut peut-être parler plutôt de techniques d'activité physique et sportive qui associent des exercices de tonification musculaire, d'étirement et d'assouplissement, et le tout cumulé à de la respiration. Je pense qu'on serait plus dans une conception globale et sans justement vouloir opposer de façon caricaturale des gyms douces à d'autres gyms qui seraient plus durs. D'autant plus que chacune de ces gyms, comme vous l'avez fait remarquer tout à l'heure, ont en elles-mêmes des précautions. On doit prendre des précautions, et peut-être même pour certains exercices qui sont dans chacune de ces méthodes, y a-t-il des contre-indications ?
Dominique Cazaïs, qu'est-ce qu'on regroupe sous la bannière de gym douce, que l'on appelle également gym énergétique?
C'est surtout une conception de l'activité physique qui prend le corps pas sous l'angle purement mécanique ou physiologique, mais aussi qui intègre les émotions, l'aspect psychique, et puis toute la relation avec l'environnement, avec la nature, avec les autres. Et c'est de retrouver un lien équilibré, harmonieux dans tous ces contextes.
Afsaneh Sabouhi.
Alors comment vous expliquez justement que ces gyms qui sont très pratiquées en Orient, où elles ont été inventées pour la plupart, elles soient restées si silencieuses chez nous, que le corps médical soit resté si sceptique?
Je pense pas que ce soit le cas, justement. Je crois que ces différentes méthodes, au contraire, ne cessent de se développer déjà depuis les 50 dernières années, quand on y a eu accès. Et là, maintenant, il y a véritablement un boom et un engouement. Justement, attention peut-être au phénomène mode, mais depuis maintenant 15 ans, depuis les années 2000, il y a un véritable engouement. Et je crois que la publication de dizaines, voire de centaines d'études médicales scientifiques ont bien montré l'intérêt de ces méthodes. Et pour revenir sur la la dénomination douce. En fait, je ne crois pas que ce soit la méthode en elle-même qui soit douce, c'est l'état d'esprit qui doit l'accompagner. Et ça s'oppose justement peut-être à une gym dure qui se veut être compétitive, où on doit faire, on doit se dépasser, mais dans une violence avec son corps. Elles n'ont de douce que la façon dont on va les aborder, c'est-à-dire respecter ses possibilités, tenir compte de ce que l'on peut faire. Et c'est plus une approche de respect de soi-même qui va être douce, sans violence, et qui justement va nous accompagner dans une association, d'une respiration, d'une attention consciente et d'un exercice adapté à nos possibilités.
Bonjour Élise.
Bonjour.
Bienvenue dans l'émission, d'où appelez-vous ?
Merci, j'appelle de Mézières-sur-Couesnon.
Alors, vous pratiquez le yoga ?
Oui, depuis un an, le Vini Yoga.
D'accord, c'est quoi exactement ? Voilà. C'est quoi ?
Eh bien, c'est un yoga qui s'adapte aux différentes morphologies, aux différents âges. Qui prend soin, en fait, par exemple, quand on a mal au genou, bon, bah, la prof va donner, elle va adapter la posture.
Alors.
Elle va adapter le souffle.
Est-ce que la pratique du yoga a eu des effets, sur vous, des bienfaits corporels, psychiques?
Oui. Depuis un an, j'ai pas eu à remettre ma minerve. Parce que j'avais souvent des petites vertèbres dépassées, j'étais bloquée du dos, du cou, très régulièrement dans l'année. Donc déjà, j'ai pas eu à la remettre. Et puis, au niveau digestion aussi, ça, c'est plus facile. pardon. Et puis, au niveau apaisement, par exemple, le matin, on se lève, on est un peu crispé, on prend le temps de faire juste des gestes dont on se souvient, parce que je me souviens pas de tout, ça décrispe, en fait, le corps, ça rend de meilleure humeur. Enfin, moi, c'est ce que ça me fait.
Et ça facilite donc la digestion.
Oui.
Mais faut pas avoir honte de ce sujet-là. Montaigne en parle largement dans ses essais, vous savez. Donc, docteur Lionel Coudron, sur les bienfaits sur Élise, les bienfaits du yoga.
Justement, ce qui vient d'être dit est très explicite, c'est-à-dire que les différentes techniques dont on parle, et en particulier le yoga, vont permettre de détendre les muscles qui sont crispés, qui sont contractés, mais non seulement les muscles squelettiques qui permettent le mouvement, mais également tous les muscles lisses profonds qui commandent les différents systèmes digestifs, entre autres, mais aussi respiratoires, etc. Et ça va permettre de renforcer ce que l'on appelle le système parasympathique, c'est la régulation du système nerveux profond qui fonctionne en automatisme pour justement piloter les différents organes. Si on n'est plus dans cette vigilance, dans cette attention, de cette urgence, il y a un apaisement et il y a un fonctionnement normal et naturel de ces différents organes.
Dominique Casalis.
Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a encore beaucoup à découvrir aussi dans le fonctionnement humain global entre le corps, l'esprit, et que ces gymnastiques, elles nous permettent aussi de faire une recherche personnelle de qu'est-ce que je suis, comment je fonctionne, comment je peux mieux gérer ce que je porte, le projet que je porte dans ma vie, et l'harmoniser bien sûr avec les conditions extérieures. Donc il y a aussi une forme de recherche à travers ça, de son identité, et bien sûr, au-delà du bien-être, d'un équilibre de sa vie.
Élise, un mot de conclusion ?
Oui. Bah, effectivement, on est un peu plus disponible, en fait, pour ce qu'on a envie de faire, parce qu'on est mieux dans son corps, en fait. Donc on est plus apaisé, ouais.
Merci beaucoup, Élise, de nous avoir appelé ce matin. Eh bien, faites comme Élise, hein, appelez-nous au 01 45 24 7000 ou déposez-nous vos témoignages par courriel, grand bien vous fasse, @radiofrance.com. Et il est temps de retrouver Thibaut de Saint-Maurice.
La petite philo de la vie quotidienne.
La vérité n'est jamais amusante à dire, sans ça tout le monde la dirait.
Thibaut de Saint-Maurice.
Et vous avez l'intention de me la dire?
Oui. Quand tu fais karaté, tu fais bien ou tu ne fais pas du tout. Monter, descendre, allonger, oui, plier poignet. Descendre souplesse, voilà. C'est ça. Allonger, monter, descendre, voilà. Plier genoux baissés, expirer, inspirer.
L'extrait de Karate Kid, et je me demande si c'est pas la voix de Roger Carrel là, qu'on vient d'entendre. Thibaut de Saint-Maurice, puisqu'on parle de gymnastique douce, vous nous proposez ce matin une petite philosophie de la souplesse.
Ben oui, Ali, parce que comme on vient de l'entendre donc dans l'extrait, on croit souvent que la souplesse, c'est le résultat d'un travail, alors parfois long, difficile et même parfois douloureux, d'assouplissement. Vous savez, où il faut s'étirer à n'en plus finir, hein, pour finalement parvenir un peu plus haut la jambe, Ali, à toucher donc ses pieds sans plier ses jambes ou à joindre ses mains derrière son dos. Bref, c'est ce travail d'assouplissement que font les gymnastes, mais aussi les danseurs ou les acrobates. Et franchement, ça n'a pas toujours l'air d'être une partie de plaisir. Et c'est paradoxal parce que la souplesse, c'est justement ce qui nous permet ensuite de bouger sans risquer justement de nous faire mal. C'est ce qu'on admire par exemple dans le geste du champion. Dans la souplesse, il y a toujours une promesse d'agilité, de facilité et même presque de grâce.
Alors Thibaut, pourquoi cette souplesse paraît-elle si difficile à obtenir ?
Eh bien, parce que s'il y a souplesse, c'est qu'il y a rigidité. La souplesse n'est souplesse que parce qu'elle contraste avec la rigidité de notre corps, de ses membres et de ses articulations. Être souple, c'est l'exact juste milieu entre la rigidité et la mollesse. C'est une sorte d'équilibre maîtrisé entre la tension et le relâchement. C'est cette finesse-là qui est difficile à obtenir et qui fait qu'on a besoin de s'entraîner. Mais on n'est peut-être pas obligé de s'étirer jusqu'à s'en faire mal pour y parvenir. Regardez Ali, les bébés et puis les jeunes enfants qui mettent, vous savez, leurs pieds dans leur bouche ou qui se faufilent partout. En pleine découverte du mouvement, la souplesse est leur condition de départ. En fait, on est souple, du verbe naître, hein, mais il nous faut apprendre à le redevenir. Et c'est pour ça que ça semble difficile.
Je précise que notre réalisateur Eric Lenné y arrive très bien à mettre ses pieds dans sa bouche et il se faufile partout dans le bureau. Thibaut de Saint-Maurice, comment faire pour redevenir souple ?
Alors on aura des tas d'indications tout à l'heure beaucoup plus précises et techniques, mais il me semble qu'il faut aussi commencer par faire preuve de souplesse d'esprit. Alors pourquoi ? Parce qu'il faut accepter, et on l'a déjà un petit peu entendu dans l'émission, accepter de repenser le rapport que l'on a à son propre corps. Et ça tombe bien parce que toute la pensée du philosophe Merleau-Ponty nous y invite en nous proposant de passer d'une pensée du corps comme corps-objet, comme le corps que l'on a, à une pensée du corps comme corps propre, comme le corps que je suis. Alors je ne suis pas un esprit affublé d'un corps que je traînerais et qui m'empêcherait de faire certains mouvements. Non, je suis un esprit incarné ou si vous préférez un corps personnel. La souplesse, ce n'est donc pas simplement une lutte pour dépasser les limites de son corps, hein, mais c'est plutôt aussi une recherche attentive pour retrouver le potentiel de mouvement de son corps.
Si je vous comprends bien, c'est une invitation à redevenir celui qui habite son corps.
Voilà, exactement. Un peu comme vous, Ali, hein, être souple, c'est arrêter d'opposer le corps et l'esprit. Et c'est trouver le juste milieu, encore une fois, entre les deux. La souplesse du gymnaste ou de la danseuse ou de l'acrobate, elle est spectaculaire parce qu'elle nous montre un corps qui n'est plus que mouvement et dont le mouvement signe la liberté. Et de la même façon, finalement, que la prudence est une sorte de signal annonciateur de la sagesse, eh bien la souplesse pourrait être le signal annonciateur de la santé. Mais non pas de cette santé objective, vous savez, qu'on mesure avec des analyses et de l'imagerie médicale, mais de cette santé incarnée qui se reconnaît à la facilité du mouvement.
Commentaire du docteur Lionel Coudron qui se tient bien droit dans une posture absolument parfaite.
Alors je suis vraiment ravi d'entendre ce commentaire sur la souplesse parce que ça correspond tout à fait effectivement à une évolution naturelle de l'approche corporelle. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Tout d'abord, une articulation, c'est le paradoxe entre deux fonctions. La stabilité, il faut que ce soit solide, il faut que ce soit résistant. Et puis effectivement la mobilité parce qu'on a un corps qui est fait pour se déplacer. Eh bien justement la souplesse va apporter cette qualité de mobilité et on l'a trop oublié pendant des décennies. On a d'abord pensé que le corps devait être tonique, solide, et il fallait pour cela le muscler à outrance. Et on s'est rendu très vite compte de l'impasse dans laquelle on allait. On a rajouté de la proprioception, c'est-à-dire il faut sentir son corps pour pouvoir le bouger comme il le faut dans l'espace. C'était la deuxième fonction, la deuxième orientation, et elle était très importante pour redonner de la sensation dans ce corps. Et la troisième vers laquelle maintenant on se dirige, c'est justement la capacité d'avoir un corps souple, délié, mobile, qui va à l'encontre de la rigidité. Et comme vous venez de le dire, cette souplesse, bien évidemment, elle doit être dans le corps, mais aussi dans l'esprit. Ce serait dramatique d'avoir un corps souple et de rester dans un esprit rigide, fermé, inattentif. Et la souplesse, elle doit déboucher sur justement une capacité à s'adapter.
Dominique Cazaïs.
Oui, la souplesse, c'est un mot aussi qui retrouve cette jeunesse. Hein, dans le taoïsme, qui est aussi l'origine du Qigong, on prône vraiment le retour à l'enfanson, à l'enfance, dans ses qualités justement de souplesse, puisque la souplesse, elle nous met en relation, une relation harmonieuse entre toutes les parties du corps. Et c'est vraiment aussi cette notion de souplesse de l'esprit qui va ensemble. Le corps et l'esprit, ils manifestent la même énergie. Et donc si on est souple d'esprit, qu'on accepte l'inconnu par exemple, et pas seulement la dépense à travers le corps, eh bien on va trouver cette agilité, cette qualité du corps.
La petite philosophie de la vie quotidienne, c'est tous les lundis avec Thibaut de Saint-Maurice. Une émission préparée par Alexia Rivière, Claire Destacan et Théo Denmat, avec l'aide d'Antoine Vandeville, et c'est réalisé par Eric Lenné. Vanessa Paradis, divine idylle.
Je ne vous dérange pas.
Je prends l'air, je suis dehors, je fume.
Grand bien vous fasse.
Un peu de gymnastique vous ferait plaisir.
Sur France Inter.
10h24 et on s'intéresse ce matin au Gym 12 qui soigne le corps et l'esprit avec le mensuel Ça m'intéresse. Avec le docteur Lionel Coudron, le spécialiste en gym chinoise Dominique Cadaïs et avec la journaliste de Ça m'intéresse Afsaneh Sabouy. Et on a un courriel de Nicolas qui nous dit « Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le tai chi n'est pas une chorégraphie, c'est très intérieur, contrairement aux apparences et c'est génial. » Dominique Cadaïs, qu'est-ce que le tai chi chuan, cette gymnastique chinoise millénaire que l'on appelle également l'art du poing, c'est ça?
Alors oui, il n'y a pas de traduction exacte. Hein. Ce serait la boxe du fait suprême. Hein. Le fait suprême, c'est la poutre maîtresse qui tient tout le reste de la toiture et de la charpente de la maison. Et en fait, c'est de pouvoir avoir les deux versants de la toiture. Et donc, c'est la gymnastique du yin-yang, on pourrait dire.
Rappelez-nous ce que c'est. Le yin et le yang.
Le yin-yang, en fait, c'est juste une dialectique pour comprendre ce qui fonctionne, que ben, si on regarde le soleil, il y a un côté ensoleillé, un côté à l'ombre, que le soleil va tourner, donc ce qui était à l'ombre va devenir ensoleillé, et vice-versa, et que donc tout se transforme tout le temps dans la vie, dans la nature, et qu'à travers cette gymnastique, on va se fondre dans cette transformation, on va vivre son corps comme un mouvement lié à la nature et essayer de lui donner sa propre expression à travers un enchaînement de mouvements qui vient des arts martiaux chinois, mais où là, la force est contenue à l'intérieur, on ne l'exprime pas à l'extérieur.
Un enchaînement de mouvements au nom très évocateur.
Oui, chaque mouvement a un nom assez poétique.
Par exemple
caresser la crinière du cheval, relever le bec de l'oie sauvage. Il y a des tas de noms qui sont reliés avec la nature, justement.
Afsaneh Sabouy.
Donc on est au-delà des gyms, c'est plus que des pratiques de salle de sport.
Oui, alors il ne faut pas opposer non plus, puisque rien n'est complètement cloisonné. Mais c'est vrai que ça ouvre à la fois sur un champ de spiritualité et qui nous permet à la fois de relier l'intérieur et l'extérieur. Et d'après le commentaire qu'on vient d'entendre, en fait, c'est pas seulement intérieur non plus. On se meut à l'extériorité. Et donc, c'est la relation entre l'intérieur et l'extérieur qui compte. Pour certaines personnes, ça va être de mieux extérioriser. Pour d'autres, de mieux intérioriser selon son orientation, selon son besoin aussi dans sa vie.
Bonjour Sylviane.
Bonjour.
Bienvenue dans l'émission. Vous habitez en Alsace. Vous avez 53 ans, vous êtes enseignante. Et il y a 4 ans, on vous découvre un cancer des ovaires métastasé jusque dans l'abdomen. Et puis après un an de chimiothérapie, eh bien c'est à l'hôpital que vous découvrez le tai chi.
Tout à fait, effectivement, après une année très difficile, puisque j'ai subi des interventions chirurgicales très lourdes et des premiers protocoles de chimiothérapie, j'avais vraiment besoin de trouver quelque chose qui apaise la souffrance morale, la charge mentale que provoque l'annonce d'un cancer et le vécu d'un cancer. Et je découvre à l'hôpital un dépliant qui présente une méthode de tai chi et de qigong adaptée aux malades du cancer et aux personnes handicapées, qui est expérimentée à Strasbourg depuis 15 ans par le groupe d'Astrid Christine Vernon dans le cadre de l'Université des Hôpitaux de Strasbourg. J'ai pris contact avec cette association et depuis, ma foi, je suis totalement acquise au tai chi et au qigong, qui m'apporte vraiment, vraiment énormément dans ma vie de malade et dans ma vie personnelle.
Mais Sylviane, vous étiez plutôt sceptique au début.
Ah, totalement, totalement. Moi, j'étais quelqu'un d'absolument hyperactif, me disant que jamais de la vie je ne pourrais me concentrer dans ce type de pratique ou même faire du yoga. Et en fait, j'ai découvert un art, une pratique qui me permet vraiment de remettre en harmonie mon corps et mon esprit, qui m'apporte un apaisement, une sérénité mais vraiment incroyable, une force aussi qui me permet de surmonter les traitements. Et je me suis rendu compte que ça m'aidait non seulement moralement, mais aussi physiquement. Je trouve que je supporte plus facilement les traitements de chimiothérapie. Je remonte plus facilement la pente après chaque traitement. Et j'avoue que la sérénité qui se dégage de cette pratique est assez extraordinaire.
Dominique Cazaïs, sur le beau témoignage de Sylviane.
Oui, alors j'adhère totalement et il faut remarquer que c'est souvent à travers un accident de la vie, que ce soit une maladie, une rupture, un changement de situation, qu'on a une possibilité aussi d'essayer de se retrouver, de retrouver quelque chose de plus essentiel de sa vie. Et ces pratiques sont à la fois très accessibles, donc simples à pratiquer, il n'y a pas de performance, elles ne sont pas douloureuses. Et elles permettent de diminuer un peu le phénomène inflammatoire qui suit ces maladies graves et les traitements qui sont liés. Et aussi surtout même de retrouver quelque chose de positif en soi. Parce que quand on est malade, tout n'est pas malade. Le corps, l'esprit, il y a énormément de choses qui fonctionnent parfaitement. Et à travers ces pratiques, on retrouve ce qui est bien, ce qui fonctionne, ce qui est nous-mêmes. Et donc, on reprend confiance. Et la confiance, c'est vraiment le moteur d'une guérison éventuelle.
Sylviane, ce qui vous semble très important, c'est la pratique collective du tai chi.
Tout à fait, parce qu'on se retrouve, je suis dans un groupe de personnes qui sont atteintes de cancer ou qui ont été atteintes de cancer. Et c'est vrai que on échange entre nous d'une manière très positive, absolument pas négative. On n'est pas du tout dans le misérabilisme. On est vraiment dans une force collective. Et le fait de pratiquer ensemble permet de dégager entre nous aussi l'énergie collective qui nous pousse à la fois collectivement et individuellement dans la vie.
Docteur Coudron, sur le témoignage de Sylviane.
Alors, on a effectivement nombreuses études qui ont été faites sur l'intérêt de ces méthodes dans l'accompagnement des cancers. Et on se rend compte que ça a une action sur la détente générale, sur également la diminution des phénomènes douloureux dans le cadre d'une acceptation. Et on le voit très très bien, ce qui est expliqué, c'est que là, il y a une prise en compte de ce qui se passe. Et par rapport à ça, il y a une transformation qui s'opère. Et puis, le troisième point, c'est donc, on a dit détente, diminution des douleurs et en même temps vitalité, renforcement de la tonicité et de la, je dirais même là, dans ce cas-là, de la combativité.
Afsane Sabouhi, de ça m'intéresse.
Et vous disiez tout à l'heure qu'il y a de plus en plus d'études médicales qui sortent. On voit que ces disciplines prouvent leurs effets à la fois dans l'accompagnement du cancer, mais dans plein d'autres champs de la santé.
Oui, alors on savait bien sûr depuis des milliers d'années, c'est d'ailleurs pourquoi ces méthodes sont encore présentes, c'est qu'elles ont fait leurs preuves sur de nombreux domaines, mais depuis quelques années, effectivement, les scientifiques, les médecins se sont intéressés à leur efficacité, et on a voulu valider leurs effets, et du coup, on se retrouve maintenant avec une accumulation de preuves, et je crois qu'aujourd'hui, on n'en est plus justement à volonté de prouver, on est plus maintenant à la mise en place de toutes ces méthodes, et on vient de le voir, on le voit à l'hôpital, on le voit dans les cliniques, on le voit pour la prise en charge de personnes qui peuvent souffrir, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est à un moment donné dans notre vie, on sent qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être transformé, et puis on va utiliser cet écueil, cette difficulté, pour justement aller un peu plus loin, mieux se connaître, et puis je voudrais en profiter aussi pour ajouter ce que vous avez dit, et qui est très important, c'est ce travail sur soi, et ce travail de transformation intérieure. Et ce que l'on va faire, c'est justement s'intéresser aux ressentis dans notre corps, et en aucun cas on va aller dans une espèce de combat avec soi-même, mais on va aller dans une association avec soi-même, dans une unité, et retrouver la sensation positive qui est encore enfouie dans notre corps et qui demande qu'à s'épanouir.
Et nous consacrerons une émission lundi prochain aux médecines complémentaires à l'hôpital. Merci beaucoup Sylviane de nous avoir appelé d'Alsace.
Bien, eh ben on va se lever doucement, sans précipitation. Vous levez d'abord les genoux, de façon à avoir les lombaires collés au sol, vous basculez sur le côté et vous levez sans précipitation, doucement, doucement, sans aucune précipitation. Vous ne précipitez pas du tout le corps reste toujours détendu.
De France Culture en 1992 et nous accueillons Christiane du Puy-en-Velay. Bonjour Christiane.
Bonjour.
Vous avez une première question.
Oui, j'aimerais savoir la différence qu'il y a entre Tai Chi et Qigong. Et
Dominique Cazaïs. Si
alors, il n'y a pas de différence fondamentale, ce sont les mêmes principes, c'est vraiment la même philosophie qu'il y a derrière. C'est simplement dans la forme. Le tai chi, il vient des arts martiaux, donc ce sont des enchaînements avec des mouvements issus des arts martiaux qui demandent une certaine continuité dans l'apprentissage pour apprendre une forme, un enchaînement de mouvements dans lequel on va trouver vraiment beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Alors que le qigong, ce sont les exercices de travail de l'énergie.
Donc ce sont ça veut d'ailleurs dire qigong, travail de l'énergie.
Voilà, donc ce sont plus des exercices, aussi sous forme d'enchaînement, mais plus simple, avec moins de mouvement, et où on travaille directement selon les méridiens, les points d'énergie, les organes. Donc c'est vraiment un travail plus spécifique sur l'énergie, où il n'y a pas cette forme de mouvement issue des arts martiaux.
Le qigong, c'est l'un des 5 piliers de la médecine chinoise, avec l'acupuncture, le massage, la diététique et la phytothérapie.
Oui, toutes ces facettes de la médecine chinoise sont donc issues de la même pensée, de la même pensée de globalité corps-esprit, de la relation entre tout ce qui nous fait. Et par contre, il y a différentes techniques, et le qigong, ça fait partie plutôt du côté préventif, de l'entretien, de la prévention de la santé.
Alors, les enchaînements de base en qigong ont pour but de faire circuler l'énergie dans le but, si j'ai bien compris, de nourrir les 5 principaux organes, selon la médecine chinoise évidemment, cœur, poumon, foie, rate et rein.
Oui, le premier objectif, c'est que tout circule bien partout où il faut, donc les tissus sont bien nourris, les organes aussi. Tout fonctionne bien, on élimine ce qu'il faut éliminer. Donc ça, c'est vraiment le premier aspect du qigong, c'est que l'énergie circule, on sent plus de vitalité. Après, il y a des techniques plus profondes pour retrouver cette notion de travail de la conscience, conscience du corps, d'intériorité.
Christiane, vous aviez une autre question.
Non, c'était plutôt un témoignage. Mm-hmm. Je suis une personne là, toujours un peu anxieuse. Et je pratique beaucoup de choses pour meubler le temps. Et c'est une amie qui m'a amenée à cette pratique il y a 5 ans. Et j'ai effectivement vraiment trouvé une différence assez rapidement. Je pensais ne pas faire plus d'une heure. Et j'ai continué avec un bénéfice aussi bien sur le corps que sur l'esprit. L'apaisement, tout ce que j'ai entendu ce matin, moi je l'ai retrouvé. Et je continue.
Dominique Cazaïs.
Oui, c'est vraiment cette notion de se retrouver. Parce que pourquoi toutes ces gymnastiques se développent, c'est aussi parce que la vie est de plus en plus rapide, heurtée, on a beaucoup de contraintes, on doit réagir tout le temps par rapport à l'extérieur, et on a besoin des fois de se retrouver. Et ces pratiques sont quand même des outils pour se travailler, hein, on l'a dit tout à l'heure, et vraiment pour relier l'intérieur et l'extérieur, et trouver plus de sens dans sa vie.
Afsaneh Sabouy.
Et un des points communs de toutes ces pratiques, c'est le souffle. Est-ce que c'est là l'explication de l'apaisement que ça procure, dont parlait l'auditrice ?
Docteur Lionel Coudron.
Alors, il y a d'une part le souffle avec la respiration, mais il y a d'autre part cette énergie dont on vient de parler. Et cette énergie, ça n'a rien d'abstrait dans ces pratiques, c'est justement ce que l'on ressent dans son corps. Et je pense que tout le monde, à un moment ou à un autre, a ressenti une boule à la gorge, une oppression thoracique, un mal au ventre, des crispations, et ça, eh bien, on va dire que c'est de l'énergie qui se bloque. On n'est plus bien dans son corps, il y a des crispations, on empêche le souffle de circuler, qu'on appelle chi en chinois, ki en japonais, prana en indien et dans le domaine du yoga, pneuma chez les grecs. C'est ce souffle qui circule, mais ce souffle dans l'aspect aussi spirituel, mais dans l'aspect concret ressenti dans le corps. Eh bien, ce souffle, on comprend très très bien que si on arrive à le sentir comme circuler dans son corps, qu'on n'a plus ce nœud à la gorge, mais qu'au contraire, on sent un corps qui est fluide, qui est dans un ressenti agréable, où on a l'impression que tout communique. Et ça, ça se ressent précisément quand on pratique. Eh bien, il va y avoir cette vie qui circule dans notre corps, qui va être reperméabilisée et qui va aller nourrir la main, le tissu du foie, les intestins, les muscles. Et du coup, effectivement, on va s'en porter que mieux.
Merci beaucoup, Christiane, de nous avoir appelé du cul envolé. Dominique Cazaïs, alors que l'on pratique le yoga, le qigong, le tai chi, l'idée, c'est de renouer avec nous-mêmes, d'allier le corps et l'esprit avec l'idée de rechercher une unité.
Alors, bon, l'idée de l'unité, c'est abstrait au départ, hein. C'est quelque chose qui se construit petit à petit, mais on a entendu dans les témoignages, on se retrouve déjà soi-même, on reprend confiance, on retrouve cet être qui est toujours avec nous depuis notre naissance, et on peut être avec soi-même. Et prendre soin de soi, c'est vraiment ça à la base.
Le qigong, le tai chi, ça s'adresse à tout le monde, on peut pratiquer à tous les âges.
Tout à fait, hein, c'est vraiment très accessible. Bon, en cas de pathologie, bien sûr, on demande à son médecin s'il y a des contre-indications, mais ce sont des pratiques qui sont vraiment accessibles, on ne cherche pas de performance.
Je vous invite à placer vos pieds sur le sol, parallèles entre eux, écartés de la largeur de vos hanches, à l'aplomb de vos hanches, les jambes tendues, et tranquillement, la tête qui se place au sommet de l'axe vertébral, les yeux se ferment, et laissez le regard se tourner vers l'intérieur. Le souffle alors peut se libérer dans un soupir, dans un bâillement. Prenez le temps d'accueillir le souffle de l'instant. La conscience de l'inspire et de l'expire. Et peut-être des petits temps de suspension, poumons pleins à la fin de l'inspire, poumons vides à la fin de l'expire.
Ah, je me sens bien, moi, je sais pas vous, mais un extrait d'Interception sur France Inter en janvier 2011. Docteur Lionel Coudron, pouvez-vous nous rappeler quelques principes fondamentaux du Hatha Yoga tels que vous le pratiquez et l'enseignez? Comment expliquer les grandes bases du yoga à quelqu'un qui n'en aurait qu'une vision un peu caricaturale comme Thibaut de Saint-Maurice?
Eh bien, quand vous vous levez le matin, vous allez vous asseoir sur le bord de votre lit et vous allez vous étirer. Vous allez tout simplement lever les bras, soit à la verticale, soit sur les côtés, et vous allez inspirer profondément, vous étirer. Et ça, c'est du yoga. C'est-à-dire que le yoga, ce n'est que la reprise d'un phénomène physiologique naturel que tous les animaux pratiquent, ce qu'on appelle, on appelle ça d'un terme scientifique qui s'appelle la pendiculation. Mais quand vous regardez votre chat, votre chien s'étirer, eh bien, c'est ce que vous allez essayer de refaire dans le yoga. Donc, vous allez vous étirer sur une respiration. Vous êtes conscient de la sensation agréable que vous en ressentez et vous expirez dans le mouvement inverse. Et ceci va procurer une sensation positive, agréable dans son corps. On se retrouve, on renoue avec cette sensation corporelle. on va habiter son corps, on va lui donner plus d'espace. Et je dirais que ça, c'est la première base du yoga. Et après, va se décliner de 10 000 façons, peu importe.
Et on habite son corps grâce aux postures, notamment, qu'on appelle des asanas, c'est ça ?
Alors ça, c'est extrêmement important. Toutes ces médecines dont on vient de parler, toutes ces techniques, pardon, dont on vient de parler, elles s'appuient sur le corps. Parce que le corps et l'esprit ne forment qu'un. C'est une vision qui est le paradigme de base de cette démarche. C'est qu'en agissant sur notre corps, on agit sur notre esprit. Comme on l'a dit tout à l'heure, si on est noué, blocage du ventre, nœud à la gorge, on ne peut pas être bien. On ne peut pas avoir des pensées fluides, agréables. Si notre corps respire, n'est pas crispé, n'est pas tendu, eh bien ça va faciliter la disponibilité pour pouvoir avoir des pensées agréables.
Bonjour Arlette.
Bonjour.
Bienvenue dans Remets vous face. Vous appelez Distre. Vous appelez Distre.
Oui.
Alors, vous avez... J'ai le droit de donner votre âge ou pas? Oui.
Allez. Oui, j'ai 69 ans.
Et vous venez de découvrir le yoga?
Oui, depuis 2 ans.
Et vous étiez...
Depuis 2 ans, je pratique le yoga et le qigong dans un club à Istres.
Et vous étiez plutôt hyperactive?
Ça m'a apporté une certaine sérénité parce que j'étais à la retraite et hyperactive auparavant. Mmh. Ça m'a permis de canaliser toute mon activité qui n'était pas utilisée et j'avais des problèmes de dos énormes, de blocage intercostal. Mon médecin me disait qu'il n'y avait que la gymnastique. Et la gymnastique, quand on est un petit peu enrobé, c'est toujours difficile à pratiquer. Alors je pratiquais la natation, exclusivement. Puis un jour, je suis allée à un essai de cours de yoga et de qigong. Et je trouve que c'est ce qui m'a apporté le plus avec la natation. Ainsi pratiquer.
Alors je crois savoir, Arlette, que la pratique du yoga vous a permis de ne pas trop stresser avant une intervention chirurgicale.
Oui. Lors d'une coloscopie, il n'y a pas très longtemps, mon médecin anesthésiste se présentait avec son masque pour le mettre sur mon nez. Comme je stresse, je suis une personne assez stressée, hein, vous l'entendez.
Et ah non, ça
m'a
patron.
Permis de... Je lui ai dit, je fais la respiration abdominale, si vous voulez, je pratique un petit peu le yoga et j'arrive à respirer par le ventre. Il me dit, alors je vous mets pas le masque. Et il m'a endormi de cette façon, par piqûre bien sûr, mais une anesthésie totale.
Dominique Cazaïs.
Oui, bien sûr. Bah, toutes les peurs, en fait, elles rejoignent une inquiétude par rapport à ce qu'on est, à sa vie, à des choses essentielles de soi-même. Et ça nous permet de prendre conscience de tout ça et à travers ces techniques de pouvoir justement travailler cette angoisse et garder le lien avec ce qu'on est. Et dès que le lien est là, l'angoisse diminue.
Lionel Coudron.
Oui, alors là, c'est tout à fait une bonne méthode, c'est-à-dire qu'en respirant profondément et calmement, et en l'occurrence par le ventre, on va ralentir la fréquence respiratoire, et la fréquence respiratoire, elle est directement liée à son état d'énervement, émotionnel, de peur. Plus on est anxieux, plus on est tendu, plus la respiration s'accélère. Donc si on a un moyen pour la ralentir, c'est peut-être soit en se concentrant dessus, soit en l'associant à un mouvement, à ce moment-là, on va retrouver la détente. Et tout cela, ça relie le corps en lui-même, ça le relie à l'extérieur. Et pour mémoire, le mot yoga veut dire relier.
Merci beaucoup, Arlette, de nous avoir appelé d'Istres. Afsané Saboui, ces gyms douces semblent être de vrais remèdes à nos vies pressées, stressées, anxieuses, déprimées. Et il y a des preuves scientifiques ?
Oui, c'est ce que disait Lionel Coudron tout à l'heure. Il y a de plus en plus d'études. On a vu, par exemple, que la pratique régulière du yoga, ça permet d'abaisser la fréquence cardiaque, même au repos chez des pratiquants réguliers. Celle du tai chi, par exemple, elle joue positivement sur la pression artérielle ou même sur le taux de cholestérol. Et en fait, les bienfaits vont bien au-delà de la sphère cardiovasculaire. Il y a toutes les semaines des nouvelles études. On voit que ça permet d'apprivoiser les douleurs chroniques, ça permet de rééduquer les malades de Parkinson. On peut prévenir les chutes chez les personnes âgées. Donc vraiment, on a l'impression que c'est bon pour tout.
Et vous citez dans votre mensuel une étude des chercheurs de l'université de Boston sur la dépression. Des chercheurs qui ont mené des travaux sur un groupe de 30 personnes âgées de 18 à 64 ans, toutes atteintes de dépression légère ou sévère, et qui pratiquaient le yoga 2 ou 3 fois par semaine. Et on y a vu des effets, docteur Coudron.
Oui, la dépression, elle est multifactorielle et l'intérêt de ces méthodes, c'est justement de l'aborder par plusieurs biais sur le corps, sur la respiration, sur les pensées, sur la dynamisation, la visualisation positive, la reprise de confiance, et puis aussi le fait d'appartenir à un groupe, d'être relié à un groupe, de redonner du sens à ce que l'on fait. Tous ces éléments-là concourent justement à nous sortir, à nous aider à sortir de la dépression.
Allez, dites-nous si vous pratiquez ces gyms douces, pilates, yoga, tai chi, qigong, que sais-je. 01 45 24 7000.
Swan song to the dogs, as they make mincemeat of the dreams you hung your hopes on. So if you count it out, well, your sins cost. Well, mommy talks to your conscience, working like a fool for love.
Excellent Beck, interprété Dear Life.
France Inter.
Fais-moi faire ma gymnastique.
J'ai autre chose à te proposer.
Grand bien vous fasse.
Ah, non, pas question.
C'est très tonique.
Ali Rebi.
10h49, Pilates, Yoga, Qigong, Tai Chi. On s'intéresse ce matin au gym douce qui soigne le corps et l'esprit avec le mensuel Ça m'intéresse, en compagnie du docteur Lionel Coudron, du spécialiste de gym chinoise Dominique Cazaïs et avec la journaliste Dafsané Saboui de Ça m'intéresse. Une question justement.
Oui, je me demandais pour tous les auditeurs qui vont s'inscrire au sport en cette rentrée, est-ce que les bienfaits se mesurent tout de suite en une ou deux séances ou est-ce qu'il faut s'acharner pendant quelques mois avant de constater les bénéfices ?
Docteur Coudron.
Alors là, c'est justement l'intérêt de ces études que l'on a citées tout à l'heure, c'est qu'elles ont toutes montré qu'on avait des résultats très rapidement. On n'a pas besoin d'être un grand spécialiste, d'être un yogi au fond d'une caverne pour avoir des bénéfices. Il suffit de s'y mettre. On a fait à peu près le calcul, on dirait en moyenne 3 heures par semaine. Alors, c'est pas beaucoup, ça veut dire 20 minutes par jour ou 3 fois 1 heure dans la semaine. Et au bout de 15 jours, déjà, vous avez des bénéfices. Par exemple, pour l'hypertension artérielle, on sait que l'association régime alimentaire sans sel, hein, pour ne pas le citer, tout simplement, avec une réduction du sel et un apport important de légumes, plus associé à une activité physique, eh bien, va permettre en 2 semaines de diminuer déjà la pression artérielle, ce qui est quand même très très rapide. Et ainsi de suite, pour toutes les études, en 4-6 semaines, on a des résultats. La plupart de ces études, d'ailleurs, sont faites sur 6-8 semaines, donc ça montre bien que c'est très rapide.
Vous confirmez, Dominique
Cazalès ? Tout à fait, hein, même souvent après une heure de Qigong, par exemple, on se sent plus léger, on sent qu'on a plus d'énergie, en fait, simplement parce qu'elle circule mieux.
Aline Perraudin de Santé Magazine, est-ce qu'il faut suivre un avis médical avant de s'y mettre ?
Mais en fait, c'est toujours préférable parce qu'on ne connaît pas forcément l'état de sa forme. Et ces pratiques, aussi douces soient-elles, peuvent avoir des effets indésirables. Il y a une étude australo-américaine intéressante qui a montré que chez 10% des pratiquants de yoga, il pouvait y avoir des douleurs qui apparaissaient ou une exacerbation de douleurs existantes. Souvent parce que ces postures sont mal réalisées ou il y a eu des efforts trop importants. Donc il est important toujours de voir son médecin, d'avoir son feu vert, de surtout de signaler au professeur de yoga, par exemple, les douleurs préexistantes ou si on a eu des blessures, pour bien adapter les postures. Et il faut surtout bien connaître ses limites.
Docteur Lionel Coudron.
Oui, c'est vrai. C'est aussi le moment et l'occasion justement de faire le point sur son état. Donc ça permet, en allant consulter, de voir ce qu'il en est. Mais il est vrai aussi qu'un certain nombre d'inconvénients peuvent survenir à la pratique de ces méthodes. En même temps, je dirais qu'il est plus dangereux de ne rien faire que de faire quelque chose.
C'est vrai.
Donc il est très important de s'y mettre en étant attentif, en ajustant, en adaptant la pratique en fonction de ce que l'on va ressentir.
Bonjour Pascal.
Bonjour.
Bienvenue, vous appelez de Barcelonnette.
Oui.
Alors, vous avez été professeur de danse.
Oui.
Et ça a eu des effets sur votre corps, cette longue pratique de la danse.
Voilà, j'ai commencé la danse à l'âge de 6 ans. Et à l'époque, on nous disait que lorsque ça fait mal, c'est que ça fait du bien. Et on était toujours dans la contrainte.
Un peu sadomaso, hein.
Oui, c'est l'école de classique. Et au fil du temps, le corps s'abîme. Et si bien que j'ai eu une hernie discale. Et une ancienne élève m'a fait découvrir le pilates. Et je rejoins tout à fait ce qui a été dit précédemment. Les effets peuvent être très rapides dans la mesure où on travaille intensément et intelligemment, je dirais. Et mon hernie discale est partie. J'ai refait une IRM plus tard et ma vie a vraiment changé. J'ai pu reprendre la moto, j'ai pu refaire du ski. Enfin, il y a eu un changement radical.
Alors le Pilates, hein, c'est un ensemble d'exercices de renforcement musculaire inventé par l'Allemand Joseph Pilates pendant la Première Guerre mondiale. Et Joseph Pilates disait d'ailleurs que le contrôle du corps est un prérequis incontournable au bonheur, et dans le Pilates, eh bien, tous les gestes brusques sont bannis. C'est bien ça, Pascal ? Je ne dis pas de bêtises ?
Non, exactement ça, justement, parce que sa méthode, il ne l'a pas appelé Pilates.
Oui, c'est vrai.
Il l'a, de son vivant, il appelait ça Contrology, parce que en fait, il est parti, il a été interné en Angleterre pendant la guerre, et après, il s'est établi à New York. Et donc, c'est tout dans le contrôle, il y a 8 principes de base. La concentration, le contrôle, la respiration, la fluidité de l'exercice, donc tout, pour ne pas travailler en contrainte et vraiment adapter, la précision et l'enchaînement.
Afsaneh Sabouy, ça s'adresse à qui, le Pilates ? Il paraît que c'est très efficace après l'accouchement pour renforcer le plancher pelvien.
Oui, en fait, historiquement, d'ailleurs, quand Joseph Pilates s'est installé à New York, les danseurs du ballet de New York étaient ses premiers adeptes. Mais en fait, globalement, on peut dire que c'est la méthode préventive de tous les maux de la sédentarité. Donc, vous et moi qui passons notre temps assis derrière un ordinateur.
Non, je marche beaucoup, Afsaneh Sabouy. Je suis un grand marcheur.
Eh bien, mettez-vous au Pilates, apparemment, c'est parfait.
Merci. Alors, si vous permettez, il faut rajouter une notion, parce que vous avez parlé de contrôle, et je voudrais que ce soit bien compris et pas mal interprété par les auditeurs. En fait, il y a aussi avec cette notion, obligatoirement la notion de lâcher prise. Le contrôle s'accompagne d'un lâcher prise et le lâcher prise s'accompagne d'un contrôle. Et il faut 2 jambes pour marcher et là, il faut vraiment ces 2 notions qui se complètent.
Merci beaucoup Pascal de nous avoir appelé de Barcelonnette.
Allô ?
Oui, pronto ?
Allô, allô ?
Yes,
vous entendez ?
Non,
pardon ?
Grand bien vous fasse,
okay.
Sur France Inter.
Pronto, docteur Sauveur Boucris.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en pleine consultation, je sens.
Oui.
Vous êtes... Non, je vous écoute.
Vous êtes médecin généraliste dans un quartier populaire à Paris, auteur en poche d'Enfin guérir lorsque la médecine classique ne suffit plus. Quel regard portez-vous sur ces gyms douces que nous avons évoquées ce matin, gyms douces que vous ne pratiquez pas forcément, mais que vous conseillez peut-être à vos patients?
Oui, moi je conseille évidemment l'activité physique, la gymnastique douce et surtout les activités physiques qui leur donnent du plaisir. Parce que je leur dis, vous serez jamais, ne cherchez pas à faire les Jeux Olympiques ou à être champion. Le but, c'est de vous faire plaisir, avoir des joies, bien connaître son corps et puis surtout travailler dans la durée. Parce que ceux qui font des efforts intensifs, bien souvent, ils s'arrêtent un peu trop tôt. Et pour avoir une bonne santé longtemps, il faut avoir plutôt du plaisir longtemps. Donc ça peut être évidemment le yoga, évidemment ça peut être la marche, les randonnées, les activités, mais surtout il faut y aller avec plaisir et donc pas avec un sentiment de contrainte ou d'obligation ou d'efforts démesurés parce que ça va pas durer.
Merci docteur Boukris, je vous laisse à votre consultation. Pour conclure cette émission, l'idée c'est de pratiquer, on l'a dit régulièrement, ces gyms douces et de faire en sorte que ces pratiques s'infiltrent dans tous les pans de notre vie quotidienne. Dominique Cazaïs.
Oui, alors donc c'est une pratique qui nous accompagne, mais je voudrais dire que moi je pense qu'on prépare le monde de demain aussi. Et ce monde de demain, on parle beaucoup du monde virtuel, numérique, dématérialisé. Et par contre, notre vie, elle s'ancre sur un corps, sur une matérialité, et l'esprit, il a besoin de cette matérialité. Et donc, on prépare peut-être l'environnement de demain.
Docteur Coudron.
Oui, en renforçant justement à chaque instant cette sérénité. D'abord sur un tapis, on s'entraîne, et après, eh bien, ça va transparaître dans notre vie quotidienne, dans notre vie courante.
Merci beaucoup Lionel Coudron, Dominique Cazaïs d'être venu ce matin. Merci Afsané Saboui. Dernier numéro de Ça m'intéresse est disponible en kiosque. Merci également Aline Perraudin et Thibaut de Saint-Maurice à la technique ce matin, Antoine Gomez et Maxime Ingrand. Demain, on s'intéresse au choc de la rupture amoureuse. Comment avez-vous surmonté le chagrin d'amour? N'hésitez pas à témoigner demain dès 9h au 01 45 24 7000 et par courriel grand bien vous fasse @radiofrance.com.